dans le cœur du sujet. Moi, la question que je me pose en premier, c'est sur les références de la science-fiction à Taïwan ou de façon générale en Asie. Parce que chez nous, les grands maîtres de la science-fiction sont plutôt américains, anglais, certains sont français. Mais quels sont les grands noms de la science-fiction qui bercent l'imaginaire d'un auteur taïwanais?
Hello, everybody. My name is Da Wei Qi. I come from Taiwan, and I'm very happy to be here. It's my first time to be here, and I feel honored that my book Membranes is published in French. It's something that I didn't expect at all, and I thank for. I thank for the question earlier. When I write fiction, I'm certainly influenced by. Need I to pause? Do I?
No, keep going, and we'll do it after.
Okay. In Taiwan, many just readers and. Readers in general and the writers are much influenced by American culture and Japanese culture, as you imagine. But in addition to the American Hollywood movies and Japanese animation manga, I personally am influenced by many European artworks as well. For instance, I saw that there is a whole Solarius here. I love the films, the Russian film Solarius, and I also find that this is also a film about memory and a cyborg, and which is very close to my science fiction work, Membrane. I also admit that. I got a lot of inspirations from French films too. Since I was a high school student, I started to watch many European films, including French ones, and they taught me a lot.
Okay, donc je suis très honorée d'être ici. C'est la première fois que je viens. Très honorée d'avoir mon bouquin qui a été traduit en français. Donc à Taïwan, beaucoup de lectures de lecteurs et d'écrivains sont inspirés par la culture américaine et aussi japonaise, les animés, beaucoup. Et par contre, pour lui, il a été très inspiré par beaucoup de films et d'écrivains européens. Il a vu qu'il y avait la salle en bas qui s'appelait Solaris, donc du film russe. Et c'est assez proche de ses propres thématiques vis-à-vis des cyborgs et de la mémoire et des choses comme ça. Ensuite, il aime beaucoup les films français, ça l'a beaucoup inspiré. Et c'est surtout depuis qu'il est au lycée qu'il regarde énormément de films européens et principalement français. Et très très heureux d'être ici en France aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de... comment la littérature de genre, la littérature de science-fiction s'implante à Taïwan et de façon générale, si vous pouvez nous en parler, en Asie. Parce que nous, on voit comment se traduit la littérature de genre de l'imaginaire dans nos contrées, mais après, on ne sait pas vraiment comment ça se passe ailleurs, et du coup on aurait un côté ethnocentré à penser que la science-fiction serait forcément de notre côté, et du coup est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
So we have an idea of how sci-fi get implanted in France and in
Thank you. Maybe you know that Taiwan, the small country, a small island, is between two major empires. So one is Japanese Empire, especially during the war, and the other is China. And actually, all the three places, Japan, China, and Taiwan, were shocked by the European powers 100 years ago. So in fact, European cultures, including European literature, changed the Asia, East Asian literature a lot. Many 100 years ago, many Japanese and Chinese writers tried to imitate Europeans to write modern fiction, and so according to records, we can see that 100 years ago, French science fiction writers were already translated into Chinese 100 years ago, and many local writers in East Asia already tried to write science fiction, and it was believed that European powers were so strong because they emphasized, they put emphasis on science, and they even combined literature and the science. It was believed at that during that time. So that it has been very trendy for intellectuals, especially the patriotic intellectuals, to in East Asia, to write science fiction as a way to inspire the unscientific people in East Asia. That's the case. But in my generation, science fiction is not something patriotic anymore. I find that when I write the book, basically there are two types of science fiction in Taiwan. Is that two? Okay. Is great. One type is for fun. So we can see that in Taiwan there are science fiction books designed for very useful readers, and they are all about spaceships and explorations on Mars and so on. And the other type is more satirical. The science fiction books in the other type are basically political satires, because freedom of speech was not taken for granted in East Asian societies, and many writers find that it's better to criticize the society by writing bizarre, fantastic fiction, such as science fiction. And I find myself to be in this tradition.
Donc, Taïwan, c'est une petite île entre le Japon et la Chine. Et il y a quelques années, au moment de la guerre, ils ont été très impressionnés. Donc il y a 100 ans, ils ont été très impressionnés par le pouvoir des Européens quand ils sont arrivés, et la force qu'ils ont pu mettre dans la guerre. Et ça les a déjà influencés il y a 100 ans. C'est-à-dire que ça fait longtemps que c'est mis en place. Et du coup, ils ont commencé à être influencés par la culture et la littérature européenne il y a déjà un certain bout de temps. Et ils ont essayé en fait d'imiter cette culture parce qu'ils étaient tellement impressionnés qu'ils avaient envie de faire la même chose. Et ils ont aussi, ce qui se passait, c'est que l'Europe incluait beaucoup de vrais, enfin la science dans leurs bouquins de science-fiction. C'était très lié entre science et science-fiction, la vraie science et la science-fiction. Et ensuite, en Taïwan, ils ont essayé de faire la même chose, et ce qui pouvait être écrit dans les bouquins aussi inspirait la science à l'inverse. Ils s'inspiraient les uns les autres. Et ensuite, à Taïwan, il y a deux types de science-fiction, deux livres de type de science-fiction. Il y a ceux qui sont pour le fun, qui vont beaucoup parler de vaisseaux spatiaux et d'exploration interplanétaire, notamment sur Mars. Et il y a un deuxième type qui va être plus la satire politique, qui va être sarcastique et qui va vouloir dire des choses sans les dire vraiment, parce que vous ne pouvez pas le faire en direct. Donc vous passez via le biais de livres où vous exprimez votre point de vue sur la société et autres. Et c'est plus ce que Chitaiwet essaye de faire à travers ses bouquins.
Ça me fait penser à un auteur qui, dans ce cadre spécifique, peut-être avoir eu une influence sur la science-fiction taïwanaise. C'est Cord Vinersmith, qui était un auteur proche de Chiang Kai-shek, et du coup, à côté de ça, écrivait un cycle énorme de science-fiction qui essaye de voir la politique humaine sur le temps long. Et du coup, est-ce que c'est quelqu'un qui vous parle, Cord Vinersmith, et est-ce qu'il a encore une influence à Taïwan? It was a friend of Chiang Kai-shek, and he wrote a lot about political in long time. Oh. And I thought he may be known in Taiwan.
I will check it out. Thank you.
Yeah.
And I'm really surprised, but where did you know about this information? Perhaps it's not a commonly known in Taiwan.
Okay. Yeah. I'll check out. We'll see. Vous êtes aussi traducteur. Vous traduisez donc des romans en langue anglaise, il me semble, à Taïwan. Quel est pour vous le rapport à la langue entre l'écrivain, le traducteur et surtout l'auteur engagé?
Il traduit en chinois.
Hein, il traduit en chinois. D'accord. Voilà.
Chinois.
D'accord. Oui, bien sûr, j'imagine bien. On traduit toujours dans sa langue maternelle. Donc,
Thank you. And I can also explain why why I wanted to write this science fiction book in the first place. In addition to the book, I also wrote some science fiction stories. I think that one reason is that when I was in college and when I was a graduate student, I often felt that I was a foreigner or an alien in Taiwan. I feel more comfortable with my homeland, Taiwan, now, but it was very different some time ago. And that's why I felt this way because when I was a student, I major in English literature, and I was also a writer who didn't want to follow the mainstream of the literary mainstream in Taiwan. I didn't want to follow the mainstream writers there, and I did translate some major works such as the novels by the Italian writer Italo Calvino into Chinese. So I although physically I was living in Taiwan, but mentally, psychologically, I was with foreigners. And that's why I wanted to write the novel, because it's really about a human or maybe artificially human mind defined by many different cultures, and there is no local site in the novel. Just like I didn't feel myself connected to the local land in Taiwan.
Ok, donc pourquoi j'ai écrit à la base? En premier lieu, quand j'étais un étudiant en littérature anglaise, j'avais très peur d'être un auteur qui allait à l'échec. Et j'étais pas du tout confortable, je me sentais pas bien dans ma propre culture taïwanaise. Je souhaitais être à contre-courant, être un auteur à contre-courant. Et j'étais major en littérature anglaise. J'ai aussi fait des traductions d'auteurs anglais et d'autres italiens et de d'autres auteurs. Et du coup, je me sentais pas forcément d'une seule culture, pas forcément taïwanais. Maintenant que j'ai fait tout ce travail, je me sens plus en connexion avec ma propre culture. Je me sens mieux là où je suis. Mais c'est parce que j'ai compris que je faisais partie de... Enfin, j'appréciais avoir différentes cultures à la fois dans mon monde. Et j'ai voulu écrire à propos de l'esprit humain qui est défini par différentes cultures. Pas seulement par là où on est né, mais par toutes les rencontres, les différentes choses qui nous construisent.
Du coup, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail en parlant de membrane. Donc dans membrane... on suit le parcours de Momo, qui est une jeune esthéticienne qui a la particularité de d'implanter ce qu'on appelle le Mkin, qui est une membrane à ses clients. Ça permet à ses clients de paraître beaucoup plus jeunes, d'avoir une peau beaucoup plus lisse, mais ça permet surtout à Momo de vivre à travers cette membrane, une relation charnelle, le plaisir charnel que ses clients ont pu implanter. On est dans un roman extrêmement engagé et sur des thématiques extrêmement variées qu'on va essayer de voir ensemble. On va être sur des problèmes. On va être obligé d'en parler un petit peu et de rentrer dans le cœur. Donc je suis désolé pour ceux qui détestent absolument les spoils, mais du coup on va être obligé de rentrer un tout petit peu dedans. Mais déjà, comment vous est venue l'idée et l'envie d'écrire ce livre?
Thank you. I guess most friends here haven't read the book, so I will reveal a little bit, not much, but a little bit about the book. The heroine or the protagonist of the novel is a beauty clinic. How should I say that? A beauty clinic specialist, and this woman provides services such as massage, but a different kind of massage. She will massage the body of a clinic a client all over, but to restore the skin of the clinic, the client, but. At the same time, to restore and install some true and false memories upon the client. And I started to visualize this character because when I because the beauty industries the beauty improvement industries were very popular in East Asia since maybe 20 years ago, and it's very intriguing because I find that many people are treated like machines. They go to clinics and get it restored, and that's something that I find that very suitable for a science fiction story.
Donc vous l'avez compris, l'héroïne est une esthéticienne et elle, donc elle masse les clients, elle les restaure, on n'en dira pas plus. Et en fait, ce qui l'a inspirée, c'est toute l'industrie de la beauté qui, est très, qui marche très bien depuis 20 à 30 ans. Et il trouve qu'en fait, ça fait un peu machine, c'est-à-dire qu'on va pour se faire nettoyer, on se va pour se requinquer, pour aller mieux, et maintenance, nettoyage, maintenance et tout, création. Et il trouve ça, ça fait machine, et très lié au domaine de la science-fiction, du coup.
Say something more about the character. Continue a bit.
I did not understand what you said.
May I say more about the
character? Okay.
Sure. Okay. This character is called Momo. Perhaps the allusion is. Okay, why the heroine is called Momo is might be lost in Europe, but for people in Taiwan, people know that the Momo refers to peach, especially to a peach hero in Japan. Perhaps you know that there is a peach samurai in Japan who was born. I mean, not a real one in folklore, in Japanese folklore. A samurai was born in a peach, and he has a wonderful power, and his name in Japanese is Momotaro-san. Momotaro means the peach man, and although the story is from Japan, but it is very well known in Taiwan too. And the image, I mean, the peach guy or the Momo person, for me is also one archetypical image of a cyborg, because the person is artificial, but not naturally born.
Ok, donc Momo, le nom de l'héroïne, c'est inspiré du japonais. Momo veut dire pêche, et aussi au Japon, alors je ne vous donnerai pas le mot japonais, je ne le connais pas, mais c'est, les samouraïs sont censés être nés des pêches. Et ça leur donne des pouvoirs extraordinaires. Et donc il y a quelqu'un qui a un Momo, un pitchman, un homme pêche, on va dire, une personne pêche. C'est quelqu'un, vu que c'est né d'une pêche, c'est quelqu'un et qui a des pouvoirs, c'est quelqu'un d'artificiel, qui est né dans un contexte non humain, c'est quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça que Momo, ça, c'est aussi un nom qui est très commun à Taïwan, mais c'est un prénom qui est lié à la science-fiction pour Chitawe, parce que c'est artificiel, il n'est pas né, c'est pas humain, c'est pas organique.
Bon, on va être obligé d'entrer un peu dedans, mais du coup, c'est marrant de voir le parallèle entre le client qui a travaillé comme une machine toute la journée et qui vient se faire restaurer, et cet homme pêche, ce cyborg au final. Et du coup, pourquoi serait-ce l'esthéticienne qui serait machine, alors que c'est le client qui vit comme une machine toute la journée et qui vient se faire réparer après?
It's So why in the end is it the beauty specialist who is the robot, the machine, as it is the customer who is working all day like a machine, like very tired and angry?
Thank you, but we might reveal too much of the story. But it's very common in Taiwan that people say that people will complain that I work so hard, I have so much work, I'm just like a robot. I'm treated by my boss as a robot. So it's a very common thing, but it's also inspiring to me. And when another thing is, I work so hard that I'm not healthy. I should be treated like a machine to be maintained by a mechanic.
Donc il a fait un parallèle avec lui-même. Il travaille beaucoup, voire trop. Il est considéré comme un robot par ses supérieurs. Et du coup, il travaille tellement que ce n'est même plus bon pour sa santé et que lui-même, il devrait être maintenu comme une machine, qu'on devrait l'entretenir, faire de la maintenance et tout, qu'il devrait avoir son propre garagiste personnel parce que lui-même se comporte comme une machine à travailler énormément.
Perhaps people in France don't know that in Taiwan, young people and the students usually rely on motorcycles for transportation because to ride a motorcycle feels freer and makes the rider liberated. And in fact, when I was writing the book, I was I rode a motorcycle for commuting, and from time to time I had to send my motorcycle to a mechanist to fix it. And one day when I was sending my motorcycle to be how do you say this? Just for the mechanic, and the mechanic took every part of of my motorcycle away, and showing the engine of my motorcycle, and it occurred to me that the structure of a motorcycle is really similar to the structure of a human body, especially a naked human body. I see that the interior of the motorcycle looks like the skeleton, a human skeleton, and that's why I wanted to play the similarities between a motorcycle like machine and a human being.
Ok, donc vous ne savez pas forcément en France, mais les étudiants et les jeunes personnes à Taïwan utilisent beaucoup des motos pour se déplacer aux alentours, et que quand vous êtes sur votre moto, vous vous sentez vraiment libéré, c'est agréable, vous êtes free, mais par contre vous avez l'entretien, donc vous devez l'emmener au garagiste régulièrement. Et une fois, Chi Taiwei emmène la sienne, sa moto, chez le garagiste. Et là, un de ces jours-là, il a fallu enlever tous les morceaux pour aller jusqu'au cœur, jusqu'au moteur et tout ça. Et c'est en faisant ça qu'il s'est rendu compte que finalement, l'intérieur des motos était assez proche du corps humain nu et de notre fonctionnement. Il a trouvé ça qu'il pouvait faire il y avait pas mal de similarités entre les deux. Et c'est pour ça qu'il considère que le corps humain et une machine, finalement, c'est très proche. Et c'est de là qu'il fait ses parallèles.
Oh. Au-delà de l'identité de la personne, de Momo, ce qui ressort comme problématique du livre, c'est clairement la surveillance d'État, l'utilisation de la technologie pour la surveillance de la population. Nous, en Europe, en Occident, on a de nombreux rapports à ces problèmes, par rapport notamment aux écoutes de la NSA, des problèmes de fuite sur divers sites qui peuvent être hackés, etc. Comment cela se développe en Asie du Sud-Est et pourquoi vous vouliez l'introduire dans votre livre ?
Thank you. That is a very precise, accurate observation. Yes, in the novel, I describe a world where everybody might be monitored by the government. In the book, everybody is connected to the internet, and which it can be exposed to the government or the enterprise easily. It's a world very similar to the world revealed by Snowden and the WikiLeaks. I mentioned such plots in my book, not really because I knew the cyber technologies so well, but because in Taiwan, people similarly don't trust the government and easily. We always fear that our private lives would be exposed to the government. The reason is, when I wrote the novel, the speech of freedom in Taiwan was still very new. I wrote the novel in 1990s, but the Taiwan government newly shifted from a military regime to a democratic one in late 1980s, very similar to the transformation of a Taiwanese politics happened to at the same time with the collapse of the Soviet Union. Yeah, so that is a writers and the people in Taiwan always worry that we might be controlled too much by the government. That's why I will imagine such a society in the book.
Donc à Taïwan, ils sont, enfin dans le livre, tout le monde est connecté à Internet, tout le monde est surveillé régulièrement, et ils trouvent ça très similaire aux affaires Snowden et WikiLeaks. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Taïwan, ils ont vraiment peur d'être surveillés par le gouvernement régulièrement et que ça influe sur leur vie privée. Elles ne veulent pas que leur vie privée soit publiée. Et dans les années 90, c'était quand il a écrit son bouquin, on venait juste de passer à Taïwan de un régime militaire vers la démocratie. Et la peur était toujours présente d'être toujours surveillée par le gouvernement. Et c'est pour ça qu'il met en avant dans son bouquin une société où vous êtes surveillé à tout moment dans votre vie privée et autres.
Vous dites que la liberté de parole était très limitée, mais du coup, comment on écrit un roman si engagé et en même temps si critique par rapport à ce genre de de régime sans en ayant une liberté de parole limitée. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être je ne sais pas, soit en danger, peut-être censuré
Thank you for your concern. I can say that the writers, I mean in Asian countries, writers in Taiwan are relatively happier and luckier because most writers do not get persecuted by the governed by what they write. So it's very different from other countries. For instance, writers in China often need to worry if they offend the government, but it's not the case in Taiwan. What I say doesn't mean that people in Taiwan are free to write anything. For instance, it's very different now because of the rise of China, and everybody seems to. It seems that everybody needs to write something to make China happy. And the government doesn't ask the Taiwanese writers to write such pro-China literature, but some writers do feel the pressure from many sides, sometimes from China. And it's also true that many Taiwanese writers and musicians, artists, and so on want to sell their artworks to China. So they are more concerned if they cannot make China happy.
Donc, à Taïwan, c'est pas trop censuré. Ils ont plus de chances. Ils sont plus heureux qu'ils ne le seraient s'ils étaient en Chine, où il y a plus de risques de persécution et ils ne peuvent pas dire exactement ce qu'ils souhaitent. Et il ne faut pas offenser du coup le gouvernement chinois quand vous écrivez, mais ce n'est pas autant le problème à Taïwan. Et par contre, en Chine, il y a beaucoup d'écrivains et de musiciens qui aimeraient être connus en dehors de la Chine. Ah oui, pardon. Alors à Taïwan, ils veulent être connus en Chine parce que c'est un très grand marché. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'habitants en Chine. Et pour le coup, quelque part, pour pouvoir être publié en Chine, il faut écrire quelque chose qui plaît à la Chine. Donc quelque part, vous entrez dans le système de censure si vous écrivez et faites de la musique de ce qui pourrait plaire en Chine. Mais c'est pas, vous n'êtes pas persécuté si vous faites autre chose que ce qui plaît à la Chine.
Ça reste de l'autocensure, en fait, pour essayer de rester dans le cadre du parti. Mais pourtant, d'un autre côté, on voit une certaine littérature chinoise qui peut se permettre d'être critique sur l'histoire du maoïsme, puisqu'on a clairement une critique très profonde de l'histoire maoïste dans le Three Body Problem, le dernier prix Hugo, en restant dans la science-fiction, le dernier prix Hugo est donc un roman chinois, de Xin Luk Zhu, je ne saurais pas le dire, donc je vais arrêter d'essayer. Et du coup, ce roman très très fort sur une rencontre extraterrestre se permet d'être extrêmement critique avec le maoïsme. Et du coup, je trouvais ça juste étrange. Je ne sais pas si vous l'avez lu et est-ce que vous pouvez nous en dire.
Three bodies. No, I know.
You read the book? if you read the book and if you feel the criticism about China.
I have to admit. Three Body is extremely famous, but I haven't read it. The reason is Chinese science fiction becomes very strong, and their works are tremendous. It's worth it, but it would take a lot of time surveying the works. Many of the Chinese science fiction is online, and it really would take a lot of time to see what's going on. But I do look forward to reading Three Bodies on my own.
Okay.
Donc l'auteur en question est très connu, mais il n'a pas eu l'occasion de le lire jusqu'à maintenant. Et la science-fiction en Chine marche très bien, mais et c'est beaucoup en ligne en fait. Donc je crois qu'ils peuvent pas trop surveiller. Donc voilà. Mais lui, il n'a pas encore eu l'occasion. Il conseille. Il essaiera lui-même plus tard.
D'accord. Un autre problème. Une grande partie du roman se passe dans une ville sous-marine, puisque dans le futur, le sol aura été dévasté. Même si des humains continuent à y vivre, il est largement dévasté par les crises écologiques. Ce sont des questions aussi extrêmement présentes par chez nous. Mais pourtant, avoir le point de vue de ces problématiques qui concernent l'ensemble des pays, mais qui sont forcément différentes entre un pays qui n'a plus tellement besoin de consommer pour ses infrastructures du carbone parce qu'il est développé, et d'autres qui continuent à en utiliser justement pour arriver à maintenir un certain niveau de confort qui se dispenserait à davantage de population. Comment se développe la problématique écologique du coup en Asie du Sud-Est qui
Thank you. It's true that the threat from technologies is very huge in Asia, and we know that several years ago the nuclear power plant in Japan, Fukushima, was seriously damaged by tsunami, and since then, people say that it's dangerous to touch any seafood in Japan, and the ocean the sea connected between Japan and Taiwan is considered to be dangerous, but people still eat seafood on the ocean, there are many disputes between anti-nuke and pro-nuke people in Asia. Many would say that, for instance, in Taiwan, because the Japanese nuclear power plant is so horrible, we shouldn't keep any nuke power plant. However, some people would say that we should turn to France because French people keep the nuclear power plants so well. So if we learn the techniques from France, we should be fine. And such disputes are certainly very intense in East Asia now.
Ok, donc c'est vrai qu'il y a un problème vis-à-vis de l'énergie avec toutes les nouvelles technologies que nous utilisons. Nous avons besoin d'électricité et d'énergie. Et particulièrement après la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011, il y a beaucoup d'arguments entre ceux qui sont pour le nucléaire et ceux qui sont contre le nucléaire. Entre le Taïwan et le Japon, il y a le même océan qui est assez dangereux, donc les mêmes problématiques. Et du coup, il y a d'un côté ceux qui disent qu'il faudrait suivre les Japonais dans leur façon de faire des sites nucléaires parce qu'ils sont très doués et tout ça et qu'ils savent gérer et qu'ils ont un savoir-faire puisqu'ils ont la mer qui les... Fukushima, c'est une catastrophe, mais il y a toutes les autres qui sont encore en marche. Mais qu'en même temps, il faut aussi se tourner vers la France avec des sites nucléaires qui fonctionnent très bien depuis des années et pour lesquels il ne s'est jamais avéré de soucis. Et donc il y a différents débats, le pour et le contre. Et pour ceux qui sont pour, ils disent qu'il y a de très bons exemples au Japon et en France qui peuvent être suivis.
Je viens de voir que le temps presse beaucoup et il y a surtout un sujet sur lequel je voulais revenir. C'est bien sûr les questions de genre et les questions de sexualité dans votre roman, qui sont extrêmement importants. La question de la transsexualité... De façon générale de l'intersexualité est extrêmement présente et vous êtes un auteur extrêmement engagé dans les causes LGBT. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'est la lutte LGBT à Taïwan?
The LGBT culture was not big at all when I started to write the novel in the 1980s. But times changes a lot. Today, the LGBT culture is very big in Taiwan, and so they are. We have middle school teachers who come out as transgender people, and the society, the progress of society is amazing. And in fact, tomorrow Taiwan will the biggest gay pride parade will take place in Taiwan tomorrow, and it's bigger than those in Korea, in Japan, and so on. I think that although Taiwanese culture can be conservative and still patriotic in some ways, but the people there are still nice and encouraging, and many are try to understand the differences among people. So I think that the society itself in there is still is more friendly than I expected.
Okay. Donc quand il a écrit son bouquin dans les années 90, la culture LGBT n'était pas du tout développée et que ça a beaucoup changé depuis à Taïwan. Maintenant c'est beaucoup plus répandu. Et vous pouvez trouver à Taïwan des professeurs de collège qui sont transsexuels. C'est pas un problème. Et demain, il y aura la plus grosse gay pride d'Asie de l'Est à Taïwan, justement. Et donc, malgré le fait que Taïwan, c'est une population très conservatrice, les gens sont sympas et ils essayent de comprendre les différences entre les personnes. Et donc c'est finalement pas tant un problème. Ils essayent de s'ouvrir à ces différences.
Quand on voit qu'un roman comme ça abordant directement les envies et les problématiques de la transsexualité et des différences de genre peut-être écrit à Taïwan dans les années 90. Est-ce que vous avez vu de l'autre côté, et comment l'avez-vous vu, les tendances réactionnaires des militants anti-mariage gay en France ou aux États-Unis? Comment vous avez-vous vu ces manifestations réactionnaires et cet appauvrissement d'une population gay-friendly et une véhémence envers la culture LGBT?
Thank you. I think that in fact, Taiwanese people really envy the American society and the French society where gay people can get married. But many people in Taiwan don't know that many gay people might be attacked or harassed or prevented from being married in France and America, because that's certainly perhaps naivety in among people in Taiwan. They only see how progressive America and France can be. But they know very little about hate crime, or they know very about hatred in American and French societies. So the people there only know half of the story.
À Taïwan, ils envient la France et les États-Unis, qu'ils trouvent très progressistes et qu'ils pensent que y a aucun problème, tout le monde peut se marier, on est très ouvert, il n'y a pas de souci. Et en fait, ils connaissent que la moitié de l'histoire, ils savent pas, ils sont pas forcément au courant du fait qu'il y a eu des manifestations anti-gays en France et aux États-Unis dernièrement. Donc, ils peuvent pas réagir parce qu'ils savent pas.
Mais vous, du coup, comment vous réagissez par rapport à ça? Comment vous vous prenez cette vision progressiste de l'Occident de façon générale soit largement voilée par ces relents réactionnaires, alors que par chez vous, justement, on a plutôt un espoir vers quelque chose de beaucoup plus progressiste.
Thank you. This question is a little bit academic, and it's challenging for. It's a big challenge for me. The reason is, I need some time to think about a better the answer. The reason is, I find. People might ask me similar questions when I am in Taiwan, but when I am in France, I don't know which position I should occupy to answer this, because you are not my Taiwanese friends. I do think that but something good about where I am from Taiwan is that I am already surrounded by many online discussions about homophobia, and many of my own students, college students, I teach in a college, and many of my college students would openly discuss homophobia on the forums on Facebook. So that's I don't think that I can and teach a lot more to my students, but they already teach a lot to me regarding tolerance, about diversity, and so on.
Il lui faudrait plus de temps pour répondre à cette question. Il ne sait pas trop comment lui répondre, parce qu'on n'est pas le cercle et le public à lequel il a l'habitude de répondre à ce type de questions. Mais en tant que professeur à l'université, il est déjà vachement entouré par les réactions de ses élèves via les forums en ligne ou Facebook et autres, et comment eux ils réagissent à l'homophobie et tout, et comment ils la tolérance aussi. Et donc il dit qu'il n'a pas forcément grand-chose à leur apprendre, parce qu'ils lui apprennent déjà beaucoup en ligne avec tout ce qu'il a autour de lui.
Eh bien, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, on va pouvoir en avoir quelques-unes.
Hal, you were speaking about Solaris, and I believe that you like very much Tarkovsky and the work he did with Stalker and so on. And I saw you've translated the Italo Calvino Invisible Night. So what is the metaphysical point of view plays in your books, if there is?
I thank you. I think that the film directors such as Tarkovsky and also the Jean-Luc Godard's Alphaville and the literary works by Italo Calvino teach me how to reimagine humanism. The reason is humanism is also a popular word in Taiwan, in East Asian culture, but it's often taken for granted, and it's often interpreted to be very Confucianist and very moralist. But these European masters teach me that the humanism can be very fabricated, can be fragmentary, and might be damaged and also restored. And that's I have been attracted to this European master because they teach me what is not considered to be normal or standard in East Asia, so I appreciate them a lot. It's also one reason that I make the book very different from what my fellow writers in Taiwan will produce, because many still follow many writers in Taiwan still follow the humanist doctrine. They try to make a reader identify with the characters and try to make the readers feel touched, but I want to do something different.
Thank you.
Donc, monsieur demandait à Chitai Wild comment il ressentait la métaphysique des... de, je ne me rappelle pas du nom des auteurs. Le russe. Et donc il dit que l'humanisme est revu dans ses films et livres et que lui ça lui a permis de se poser des questions et de revoir comment il gérait l'humanisme et que en fait ça peut être fabriqué, ça peut être détérioré et ça peut être remis à zéro, enfin on peut revoir l'humanisme et que c'est pas quelque chose de il a voulu être différent des autres auteurs taïwanais qui essayent de faire dans leurs bouquins de science-fiction de l'humanisme quelque chose qui touche les lecteurs et c'est pas ce qu'il cherche à faire, il veut vraiment proposer une autre vision de l'humanisme et pas être conformiste au confucianisme. Oui, c'est ce qu'il a dit.
À la morale confucianiste. Comment ? À la morale confucianiste.
À la morale confucianiste. Ah, je me connais pas ça.
Et cette musique nous dit qu'il faut qu'on parte, il me semble. n'hésitez pas à aller chercher son livre et à vous le faire dédicacer à la librairie. Il est vraiment excellent. Et merci d'avoir suivi cette rencontre. Il sera là pendant tout le festival. Merci beaucoup.